Et oui, ce matin, je vous propose de voir comment se prépare Noël dans les EHPAD de la région, comment nos aînés, nos parents, nos grands-parents s'apprêtent à passer cette fête traditionnellement vécue en famille, quels sont les assouplissements mis en place, les conditions de sortie. On voit ça avec vous, Didier Carle. Bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Il faut dire que votre point de vue est triplement intéressant puisque vous êtes à la fois directeur d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, c'est à Grenade, l'EHPAD Saint-Jacques, et vous avez une vision plus large avec vos autres casquettes, celle de président de l'ADESPA Occitanie, qui fédère les directeurs d'établissements de la région, et puis celle de secrétaire de l'ADEPA, qui est à peu près la même structure au niveau national. Voilà pour les présentations. Alors Didier Carle, nous sommes à 2 jours de Noël. C'est quoi la température, sans mauvais jeu de mots, dans les établissements?
Écoutez, cela est relativement variable. Il y a forcément un petit peu de déception, à savoir que nous attendions tous une réouverture de nos établissements permettant les visites en famille à des moments aussi cruciaux. Et force est d'admettre que, il y a certaines craintes, des craintes de la part de familles, il y a des craintes de la part de résidents, mais également la nécessité, lorsqu'on est directeur d'établissement, on est très schizophrène, c'est-à-dire qu'on se réjouit philosophiquement, éthiquement, déontologiquement de ses sorties, et à la fois on est obligé de protéger le collectif au retour, et donc la mesure d'isolement en chambre, du maintien en chambre, et donc de la suspension de toutes les activités collectives en attendant d'avoir les résultats des tests PCR négatifs, amène un choix cornélien pour les résidents et pour les familles, à savoir choisir entre un repas en famille, pour lequel certains résidents se refusent. Je pense notamment aux 2 résidents que nous avons eus en réunion du Conseil de la vie sociale qui se sont exprimés en disant « nous avons peur et nous n'irons pas en famille ». Et donc ce choix cornélien à faire entre un repas de fête et puis évidemment cette période d'isolement au retour.
Et oui, quelques heures en famille contre une semaine dans sa chambre. Effectivement, on imagine hein, le difficile équilibre que vous avez, vous, à trouver entre la protection sanitaire que vous devez à vos résidents et puis aussi le respect des libertés fondamentales, les leurs. Alors, Didier Carle, dans une note du 11 décembre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé les conditions pour Noël dans les établissements. Ces mesures sont applicables depuis le 15 décembre et valables jusqu'au 3 janvier. Ça s'apparente à une forme de trêve, un assouplissement des consignes sanitaires. Il facilite les visites, et ceci, je cite, afin de permettre aux résidents de vivre sereinement les fêtes de fin d'année. Alors, on va venir un petit peu dans le détail de ces mesures, même si on comprend d'après ce que vous nous dites que, quand bien même assouplissement il y a aussi dilemme à les mettre en place. Est-ce que c'était nécessaire tout de même cet assouplissement annoncé par Jean Castex, le Premier ministre?
Cet assouplissement était absolument nécessaire. Vous avez bien fait de dire que les personnes âgées accueillies en établissement, d'ailleurs à domicile de la même manière, sont des citoyens à part entière. Et donc cette trêve des confiseurs, on pourrait dire ça comme ça, au moment des fêtes qui a été espérée et voulue par les Français, l'était tout autant de la part des personnes âgées en établissement. Donc il y avait une vraie, vraie envie, un besoin d'assouplissement, mais qui se caractérise beaucoup plus dans le souhait et l'envie de voir les familles beaucoup plus librement venir au sein de la structure, et notamment partager les repas de fête que on pouvait faire habituellement. Je me souviens, l'an passé, il y avait plus d'une quarantaine de familles le jour de Noël qui étaient dans les salons pour un repas avec leurs proches. Donc il y a beaucoup plus cette demande, notamment aussi compte tenu, je dirais, de la perte d'autonomie des résidents qui amène que toute sortie en famille est parfois tout simplement difficile en dehors des circonstances sanitaires. Donc oui, c'était voulu, attendu, comme pour tout citoyen, sachant que ce qui a été aussi assez largement assoupli, ce sont les conditions de visite, de sorte à ce que 7 jours sur 7, sur cette période, nous puissions accueillir le maximum de familles, mais cela reste sur des créneaux assez courts, puisque c'est une trentaine de minutes en moyenne. Donc ça fait assez court.
Ça veut dire qu'on a appris des erreurs du printemps?
Forcément, nous avons appris des erreurs du printemps, mais surtout il y a 2 éléments fondamentaux, et puis peut-être un troisième dont on parlera. Les premiers, c'était l'équipement de protection individuelle, je pense notamment aux masques, et les seconds, c'était les tests. C'est-à-dire qu'au printemps, outre le fait qu'il y avait une méconnaissance très importante au regard de ce virus, il y avait également d'immenses difficultés qui ne nous permettaient pas de protéger que ce soit les professionnels ou les résidents, et puis d'isoler lorsque nous pouvions avoir la garantie que quelqu'un était, par exemple, positif. Donc, d'abord des moyens nouveaux, et puis évidemment, vous avez raison de le dire, le comité consultatif national d'éthique a posé aussi cette question du juste compromis à trouver entre la sécurité sanitaire et la santé psychologique des résidents.
Alors, de façon très concrète, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il sera autorisé de faire ou non, ce qu'il est autorisé de faire ou non depuis le 15 décembre, et concrètement, pour qu'on comprenne, qu'est-ce qui, dans les EHPAD de la région, peu ou prou, sera possible de faire à Noël?
On peut le voir sur deux points. D'abord, l'accueil des familles. Donc, encore une fois, l'ensemble des établissements a élargi les plages horaires pour recevoir les familles et a multiplié le nombre de lieux d'accueil. Il faut comprendre déjà que ces visites sont toujours encadrées. Cela signifie qu'elles prennent un rendez-vous dans des lieux dédiés, qu'il faut désinfecter après, il faut aller chercher le résident, il faut l'amener, il faut accueillir la famille, il faut s'assurer qu'en fin de mesure, barrières ont été respectées. Donc, de fait, une visite de 30 minutes implique entre 45 et 50 minutes, je dirais, de temps dédié. Donc, multiplier le nombre de plages horaires, multiplier les lieux d'accueil et multiplier les jours d'accueil puisque nous accueillons 7 jours sur 7. En parallèle, évidemment, c'était ce qui était aussi attendu, ce sont les sorties qui sont possibles en famille pour un repas, pour une après-midi ou pour plusieurs jours. Ceci est tout à fait possible à partir du moment où la demande a été formulée par écrit, par le résident lui-même, en tout cas, qu'il consent bien à cette sortie, parce qu'on a pu voir parfois des familles qui tenaient absolument à ce que son parent, son grand-parent vienne, et puis une personne âgée qui était beaucoup plus réticente, ce qui a pu amener une incompréhension de la part des familles. Et donc, la demande de la famille d'accueillir, le consentement naturellement de la personne âgée à sortir, et en particulier d'accepter d'être bien informée et d'accepter les conditions retour, ce qui nous amène, comme je le disais, à avoir
Et oui.
parfois des choix un petit peu cornéliens. Et puis une charte tout simplement d'accueil qui garantit là aussi que le nombre de convives sera limité et surtout que les mesures barrières seront bel et bien respectées.
Est-ce que les visites en chambre pourront à nouveau être autorisées? Je crois que ça fait partie des demandes aussi des familles.
Oui, alors elles le sont en tout cas en ce qui nous concerne par exemple, ces visites en chambre l'ont toujours été depuis le démarrage de la crise sanitaire sur plusieurs critères, bien sûr les fins de vie, bien sûr ce qu'on appelle les syndromes de glissement, c'est-à-dire un état psychologique qui se dégrade très vite, mais par ailleurs aussi lorsque il y avait un réel bénéfice à ce que la visite se fasse en chambre, je pense notamment aux personnes qui ont des troubles cognitifs de type Alzheimer et autres, qui dans un salon avec plusieurs personnes n'arrivent pas à être présents finalement avec leur propre famille. Donc du coup, ces visites ont toujours été permises, elles le sont toujours aujourd'hui. Nous privilégions malgré tout l'organisation de ces visites dans les salons dédiés, même si on combine les deux, ce qui nous permet évidemment de multiplier encore une fois le nombre de résidents qui auront de la visite, puisque si l'on prend notre établissement, nous accueillons entre 45 et 50 résidents par jour peuvent accueillir de la famille, sur 225, ce qui entre le 23 pardon, et le 4 janvier nous garantit minimum à ce que chaque résident ait pu bénéficier de deux visites.
Oui, donc sacrée logistique, on imagine, pour sacré casse-tête pour vous à la direction des établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes. Alors, pour améliorer les liens avec les familles, l'Agence régionale de santé a mis en place un nouveau dispositif. En gros, c'est une plateforme téléphonique. Ça s'appelle le service d'accompagnement, d'écoute et de dialogue éthique. C'était important pour vous?
C'était fondamental dans un contexte où cette période a rendu plus difficile le dialogue avec beaucoup d'incompréhension de la part des proches, parfois un petit peu de colère d'ailleurs, c'est-à-dire que la peine engendrée par cet isolement et cette séparation a parfois entraîné de l'agressivité et dans certains établissements, le dialogue s'est rompu. Donc fort de ce qui avait été fait notamment en Nouvelle-Aquitaine, le directeur général de l'ARS Occitanie, Pierre Ricordeau, a souhaité véritablement mettre une instance avec, d'une part, les représentants des usagers, d'autre part, les établissements, avec le professeur Lagarrigue, qui est de la cellule d'éthique Occitanie, pour pouvoir tout simplement discuter des modalités de reprise du dialogue pouvoir avoir un tiers qui finalement prend un peu de hauteur, dépassionne le débat, puisse donner quelques explications et puis tout simplement rétablir le dialogue lorsqu'il est rompu.
On vous sent effectivement très soucieux et probablement parfois un peu triste, Didier Carle, des accusations qui sont portées sur les établissements, sur leur façon de gérer la crise. Vous faites au mieux pour vos résidents, naturellement.
Oui, c'est difficile parce que nous avons l'impression finalement d'une crise sur l'autre à souffrir un peu de cette image d'enfermement, de prison, et je ne vais pas prononcer le terme d'EHPAD bashing parce que par ailleurs, nous avons des témoignages de familles assez extraordinaires dans la période qui sont et conscientes et reconnaissantes de ce que les professionnels font. Vous avez raison de dire que nous faisons avec des moyens qui sont les nôtres. Pour connaître malheureusement le nombre de collègues qui ont subi des super clusters, ça veut dire plusieurs dizaines de cas et parfois 10, 15, 20 décès. C'est vrai que lorsque le virus rentre, il fait malheureusement des ravages et compliqué aussi de voir l'incompréhension des citoyens en disant mais que se passe-t-il finalement dans les EHPAD, force d'en être que nous accueillons les personnes les plus vulnérables. Elles ne sont pas simplement âgées, elles sont justement les personnes les plus à risque dans un contexte où elles ont des multipathologies et que vivre en collectivité rend les choses d'autant plus compliquées que les résidents ne portent pas le masque ou peu, l'acceptent mal et puis beaucoup ont des troubles cognitifs qui les empêchent tout simplement de respecter des mesures d'isolement. Donc il y a eu des endroits peut-être où les choses sont faites de manière trop drastique. Peut-être que le confinement en chambre et la suspension des visites a trop duré. Mais nous avons nous aussi souffert, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau du printemps, d'une vraie méconnaissance, d'une grande peur, de l'absence d'un certain nombre de moyens de protection et de dépistage. Mais également, nous souffrons, pour tout vous dire, de l'annonce parfois médiatique que nous voyons le dimanche soir. Aux informations que nos établissements vont réouvrir le lendemain, alors que nous n'avons pas été informés. Nous voyons à quel point les protocoles sortent un vendredi soir systématiquement, avec une application quasi immédiate. Donc, on a peu de temps à se préparer. Donc, j'entends que les pouvoirs publics font face aussi à une situation excessivement complexe à gérer. Mais ces effets d'annonce parfois, et puis ces annonces avec des temps de réaction extrêmement courts qui sont laissés aux structures, renforcent un petit peu l'incompréhension, parfois la défiance de la part des familles.
Et justement, dernier sujet, et pas des moindres, les vaccins. Hein. L'Agence européenne du médicament a donné son feu vert hier au vaccin de Pfizer. Le gouvernement a annoncé que la campagne de vaccination pourrait commencer dès ce dimanche, justement, dans les EHPAD. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les résidents y sont favorables?
Deux choses, nous ne sommes pas prêts sur notre structure parce que nombre d'éléments restent encore à déterminer. Et puis, je ne vous cache pas que, compte tenu de la période, de l'absence encore d'éléments, nous avons remis à début janvier cette question. Non pas que nous ne nous y préparons pas, nous avons pris connaissance, par exemple, de l'avis du Comité consultatif national d'éthique qui pose bien la recherche du consentement, elle est fondamentale et elle est d'autant plus difficile dans nos établissements que nous avons trois catégories de résidents, ceux qui, comme vous et moi, sont capables de consentir, ceux pour qui il y a une protection juridique tout simplement parce que leur pathologie ne leur permet pas effectivement d'avoir les discernements nécessaires, et puis une grande partie des résidents qui sont dans un entre-deux, c'est-à-dire qui ont des troubles cognitifs, certes, mais peut-être qui n'ont pas justifié la mise en place d'une protection ou parce que des demandes de protection ont été mises en place avec un système juridique totalement engorgé. Donc c'est vrai que cette recherche du consentement, nous attendons d'abord un certain nombre d'éléments complémentaires, même si nous savons par exemple que la personne de confiance qui a été désignée sera à même de dialoguer, d'orienter la personne âgée. Mais nous attendons un cadre précis. Et par ailleurs, se pose encore un tout petit peu la question du consentement éclairé, c'est-à-dire la
Bien
manière
sûr.
dont on va éclairer ce consentement sur, bien sûr, cette balance bénéfice-risque. Alors, pour répondre à votre question, un sondage a été fait par une grosse fédération qui montrerait qu'une majorité, mais pas si importante que ça, entre aux alentours de 55%, des résidents seraient favorables à se faire vacciner. Il est vrai que pour beaucoup, c'est l'espoir de voir tout simplement les établissements fonctionner comme auparavant, à savoir accueillir librement les familles et pouvoir sortir à nouveau tout aussi librement.
Eh bien, un grand merci Didier Carle d'avoir accepté de répondre à nos questions dans un moment, on l'a bien compris, où la logistique, le soin et l'attention à vos résidents est cruciale. Je rappelle que vous êtes directeur de l'EHPAD Saint-Jacques à Grenade et puis vous êtes également secrétaire de l'ADEPA, une structure qui fédère au national les directeurs d'établissement, des directeurs d'EHPAD. Je vous souhaite évidemment un très
L'EHPAD et le
joyeux
service à
Noël.
domicile. Merci, madame.
Un très joyeux Noël à vous et à tous vos résidents. Je rappelle le numéro de téléphone de la plateforme mise en place par l'ARS, c'est le 0801 902 303, plateforme où on peut échanger sur des problématiques entre avec les familles. Merci beaucoup, Didier Carle.
Merci, madame. Au revoir.